Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 9h, temps universel. Dans 30 minutes, nous parlerons de Mohamed Bazoum, renversé lors du coup d'État de juillet 2023 au Niger. Cela fait 18 mois que l'ancien chef d'État et son épouse sont retenus par les militaires dans la résidence présidentielle sans qu'aucune charge ne pèse contre eux. Ils sont coupés du monde. Seul un médecin est autorisé à leur rendre visite pour leur apporter de la nourriture. Et cette semaine, l'ONU a dénoncé une détention arbitraire, contraire au droit international. L'ONU qui demande leur libération immédiate. Alors que vous inspire le sort de Mohamed Bazoum? Vos réactions, et elles sont nombreuses au standard, 33 9 693 693 70. Vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur nos réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Pour commencer, des questions sur l'accord de cessez le feu entre Israël et le Hamas. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Et merci de nous écouter en Guinée. Quelles sont vos questions?
Bien. Le Hamas a annoncé reporter la prochaine libération d'otages israéliennes qui devait avoir lieu ce samedi. À ce propos, Juan, j'ai des préoccupations. Qu'est-ce qui explique cette décision? Est-ce que cela ne risque pas de compromettre l'accord du cessez-le-feu?
Oui, trois semaines après le début de la trêve, le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël s'est fragilisé effectivement ces derniers jours. Bonjour Pierre-Olivier.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI, expliquez-nous pourquoi l'organisation islamiste a décidé de reporter sans donner de date la prochaine libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens.
Alors officiellement, le Hamas évoque comme raison des violations de l'accord de cessez-le-feu. L'organisation islamiste accuse notamment Israël d'empêcher la population de Gaza de se déplacer, mais surtout de freiner l'entrée de l'aide humanitaire et des camions dans l'enclave, ce que dément par ailleurs Israël. Mais il y a aussi une autre raison qui peut expliquer ce gel par le Hamas de la libération des otages, ce sont les récentes déclarations, on en a beaucoup parlé, de Donald Trump, et notamment lorsqu'il envisage, comme il l'a dit, un contrôle américain de Gaza et l'évacuation des plus de 2 millions d'habitants de l'enclave. En disant ça, Donald Trump coupe l'herbe sous le pied du Hamas, notamment sur la question de la future gouvernance de Gaza, qui est un point primordial pour l'organisation. Et en évoquant une bande de Gaza vidée de ses habitants, eh bien, le président américain remet de facto en cause l'existence même et l'avenir du Hamas. Alors en gelant momentanément les échanges d'otages, eh bien, l'organisation islamiste fait pression et montre, ou en tout cas tente de montrer, son désaccord avec ce projet.
En tout cas, en stoppant les libérations d'otages, le Hamas a provoqué la colère des États-Unis et d'Israël.
Ça, c'est sûr. Et à l'heure qu'il est, Benjamin Netanyahou a d'ailleurs mobilisé massivement son armée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bande de Gaza, prête à intervenir. Quelques heures plus tôt, Donald Trump a de son côté promis l'enfer si les otages n'étaient pas libérés. Une position suivie par le Premier ministre israélien qui, lui, menace de lancer une offensive intense avec un ultimatum qui a été fixé par les deux hommes. Samedi prochain à midi, Donald Trump exige qu'à ce moment-là, qu'à cette date, tous les otages soient libérés, ce qui n'est pas du tout ce qui figure dans l'accord initial, hein, d'ailleurs qui fonctionne par phase. De son côté, Benjamin Netanyahou exige aussi la libération des otages samedi, mais sans que l'on sache s'il parle lui aussi de tous les otages ou seulement de ceux dont la libération était prévue.
Effectivement, c'est un peu confus. Ibrahima nous demande si tout cela finalement ne met pas en danger l'accord de cessez-le-feu.
Et si, bien entendu, et les signes de la fragilité de cette trêve sont déjà visibles, on vient de l'évoquer, mais jamais depuis le début de l'accord, le 19 janvier, le cessez-le-feu n'a été aussi proche de la rupture. D'ailleurs, les négociations pour la deuxième phase de l'accord entre les deux camps sont au point mort, une phase qui prévoit pourtant la libération de tous les otages et un cessez-le-feu durable, mais nul ne peut prédire à l'heure qu'il est l'issue de ces négociations, et même si elles vont pouvoir se poursuivre. En tout cas, début de réponse samedi à midi.
On suivra ça évidemment avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux. En tout cas, selon l'armée israélienne, il y a encore 73 otages israéliens toujours retenus par le Hamas. Ibrahima, a-t-on répondu à vos questions ?
Bien évidemment, merci et passez une très belle journée à Paris.
Merci et bonne journée à vous en Guinée. Pierre-Olivier, bonne journée. Merci d'être venu dans ce studio, journaliste au service international de RFI. Vos explications d'ailleurs, Pierre-Olivier, sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Il est 8h16 en temps universel. On repasse au standard avec d'autres questions. Bonjour Aruna.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auteurs de RFI, appel sur l'actualité.
À Dakar, et vous avez des questions sur votre pays, où l'opposition se mobilise.
Tout à fait Juan. Au Sénégal, un nouveau mouvement d'opposition qui rassemble 76 organisations a été lancé. J'aimerais savoir quel est le projet derrière ce nouveau front et que revendique-t-il ?
Ah, c'est vrai qu'une partie de l'opposition a décidé de s'unir hein, au sein d'une nouvelle alliance baptisée le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République, le FDR. Bonjour Léa-Lisa Vesterhoff.
Bonjour Juan, bonjour Aruna.
Correspondante permanente de RFI à Dakar, quel est donc le projet de ce nouveau front emmené par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall ?
Bien, le projet, c'est de tenter de faire front hein, face au PASTEF, le parti au pouvoir, être audible en tant qu'opposition avec cette idée de défendre les acquis de la démocratie sénégalaise. Être audible, car ce n'est pas chose aisée quand on sait que l'opposition n'a que 35 sièges à l'Assemblée nationale, alors que le PASTEF, le parti au pouvoir, lui, en détient 130. Pour ce qui est du programme, le Front pour la Défense et de la démocratie de la République veut s'opposer à ce qu'il qualifie, je cite, de logique de règlement de compte des nouvelles autorités. Le fait que le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, est fervent opposant à Ousmane Sonko, ait été démis de ses fonctions, par exemple du fait d'une condamnation par la justice. La levée de l'immunité parlementaire d'un autre député pour être entendu par la justice sur une affaire de blanchiment d'argent. Ou encore le poste de vice-président qui échappe à l'opposition. Tout cela sont des preuves pour cette plateforme de l'opposition d'une volonté de s'en prendre aux figures de l'ancien régime.
Et autre critique, le populisme des nouvelles autorités.
Oui, l'opposition dénonce des tâtonnements, une forme d'immobilisme peu bénéfique pour le Sénégal selon eux et dénonce une forme d'inexpérience des nouvelles autorités. Enfin, ce Front pour la Défense de la Démocratie et de la République dénonce également des interdictions de manifester dans le pays qu'il qualifie d'atteinte à la démocratie. Donc pas mal de critiques, vous le voyez. Que propose-t-il ? Eh bien, de défendre les libertés et droits démocratiques, d'ouvrir des concertations, notamment en vue de la révision du fichier électoral. Des propositions encore assez générales, hein, vous le voyez, mais les 76 partis qui composent cette plateforme doivent se réunir à nouveau aujourd'hui pour parler de la suite.
Ah, bah on verra justement quelle suite sera donnée à ce nouveau mouvement. Aruna, vous avez une autre question ?
Oui, Juan. Le FDR a-t-il des chances d'affaiblir le PASTEF ?
A-t-il des chances d'affaiblir le PASTEF, le parti au pouvoir ? Léa-Lisa Vesterhoff.
Bon, dans l'immédiat, non. Hein. En tout cas, il est bien trop tôt pour le dire, puisque ce mouvement vient juste d'être créé. Et puis, on le sait, le parti au pouvoir, le PASTEF, a été élu comme avec une forte majorité, un taux de participation assez important. Et donc, il bénéficie pour le moment d'un capital sympathie assez conséquent. Mais affaiblir le PASTEF, c'est bien sûr l'objectif de ce front de l'opposition qui, dans sa déclaration hein, faite à la presse dimanche au moment de sa création, affirme que près de la moitié des électeurs ne sont pas allés voter et que parmi les votants, plus de 45% ont choisi les listes de l'opposition. Donc c'est bien ces électeurs, ces indécis qui n'auraient pas été votés ou les déçus potentiellement du PASTEF que ce front de l'opposition veut conquérir dans les prochains mois.
Vous êtes au Sénégal, vous nous écoutez en ce moment, je suis sûr que vous avez un point de vue justement, une opinion sur ce front pour la défense de la démocratie et de la République, le FDR. Appelez-nous, on aura très vite l'occasion d'en parler évidemment dans cette émission. Merci infiniment Léa-Lisa Vesterhoff, correspondante permanente de RFI à Dakar. Aruna, on a répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement, Juan. Merci beaucoup.
Et bonne journée. Merci de nous écouter sur les 92 FM dans la capitale sénégalaise. Vous nous suivez à la radio et vous nous suivez également sur YouTube en images. RFI en direct, vous êtes les bienvenus. 9h20 à Paris. Vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux sans oublier, pour ceux qui sont branchés sur Facebook, de nous envoyer en message privé votre numéro de de téléphone afin qu'on puisse vous rappeler, car le principe de cette émission, vous le connaissez, c'est de vous donner la parole, c'est de vous entendre. De temps en temps, je peux me faire votre porte-parole. Mais le principe, c'est que vous puissiez interagir en direct à la radio. Innocent, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Anne.
À Yaoundé au Cameroun.
Oui.
Vous avez des questions après l'arrestation à Bamako, au Mali, d'un très proche de l'imam Mahmoud Diko.
Justement, j'ai entendu sur RFI que depuis une semaine, Daouda Magassa est détenu à la sécurité de l'État. Alors, j'ai une question à vous poser, Wan.
Allez-y.
Que lui reposent les autorités maliennes ? Son arrestation compromet-elle les retours annoncés de l'imam Diko?
Ah, l'imam Diko, Mahmoud Diko, hein, qui vit en exil depuis plus d'un an, et il est censé effectivement rentrer dans les prochains jours au Mali. Bonjour Serge Daniel.
Juan, bonjour.
Correspondant régional de RFI sur le Sahel, que reprochent les autorités maliennes à Daouda Magassa?
Alors, il n'y a pas de raison officielle, hein, puisque l'arrestation n'est jusque-là pas officielle. C'est une arrestation extrajudiciaire, ses proches parlent même d'enlèvement. Daouda Magassa a circulé début février dans la capitale malienne lorsqu'il a subitement disparu, injoignable. Son téléphone est désormais éteint, inquiétude au sein de sa famille et de fil en aiguille. On apprend de bonnes sources qu'il est détenu dans les locaux d'un service de sécurité. Daouda Magassa, il faut le savoir, est un ancien membre influent de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, la CEMAS. Mmh. Et puis l'imam Mahmoud Diko est un personnage religieux, comme vous le savez, politique et ouvertement critique vis-à-vis de la junte. Alors depuis bientôt un an, le gouvernement malien a annoncé la dissolution de la CEMAS, raison invoquée, je cite, l'association de soutien créé en vue d'œuvrer à la stabilité et à la paix s'est transformé en un véritable organe politique de déstabilisation de menace pour la sécurité. Fin de citation. L'imam Mahmoud Diko, depuis un moment, est à l'extérieur et l'un des reproches faits à Daouda est de s'activer dans le cadre d'un éventuel retour au Mali de l'influent imam.
D'où la question d'Innocent. Est-ce que cette arrestation ne compromet pas finalement le retour à Bamako de l'imam Diko? Retour, Serge Daniel, annoncé dans un premier temps pour la mi-février, donc finalement bientôt.
Il faut attendre pour voir, parce que la rumeur de son retour à Bamako pour le 14 février avait circule, mais certains de ses proches nous ont confié qu'en réalité la date avancée n'est pas la bonne. Il ne viendra pas le 14 février. Ce n'est pas ce qui est prévu, il y a un autre plan, explique un ancien responsable de la CEMAS. Alors, la même source explique, je cite, « la junte panique à l'idée de le voir revenir », fin de citation. Il faut dire qu'il y a quand même de l'agitation dans l'air depuis cette annonce. Il y a une association proche de la junte qui a du moins l'intention de porter plainte contre l'imam Diko, voilà pour l'ambiance. Il faut ajouter quand même que Daouda Magassa est également le porte-parole de la commission d'organisation du retour à Bamako de l'imam Mahmoud Diko et que de nombreux audios circulent sur les réseaux sociaux pour soutenir l'imam. Et côté pouvoir, maintenant, il n'y a toujours pas de commentaires officiels sur l'affaire. Je rappelle, une affaire qui fait du bruit plutôt à Bamako.
Ouais, je le disais en préambule, Serge Daniel, l'imam Mahmoud Diko a quitté le Mali il y a plus d'un an, c'était fin décembre 2023. Ses relations avec la junte sont plutôt mauvaises. Son retour est-il hypothétique et va-t-il plutôt mener le combat contre la junte depuis l'extérieur?
Disons plutôt que oui, la relation devenue exécrable avec la junte, ça c'est sûr. Deux exemples. Fin janvier 2023, il revient d'un voyage alors qu'il est porté en triomphe par ses partisans. Ces derniers sont dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes par la police. Entre-temps, il n'a plus droit au passeport diplomatique et puis son discours est de plus en plus corsé, dur. La junte n'a finalement rien changé, dit-il notamment. Alors ce qui se dessine d'après nos informations, c'est que l'imam Mahmoud Diko ne retourne pas à Bamako dans les prochains jours. Le mois de Ramadan approche, il pourrait, conditionnel, lancer un message bientôt. Et s'il y a un retour, parmi les dates envisagées, c'est la fin du mois de carême, fin mars plutôt. Mais la certitude, certains de ses proches affirment qu'il est décidé à donner de la voix pour un retour à l'ordre constitutionnel.
À suivre donc. Innocent, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, merci beaucoup Anne. Je tiens à vous remercier.
Bah, merci.
Et les équipes de
Oui. Bah merci. Je vous ai coupé la parole, mais je voulais vous remercier en tout cas de vos encouragements innocents. Et Serge Daniel, je lui souhaite une belle journée également, correspondant régional de RFI sur le Sahel. Il nous reste 4 minutes. On a le temps de prendre une dernière question. Delphin, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
À Abomeka, la vie au Bénin, on vous écoute.
28 corps de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été découverts dans une fosse commune en Libye.
Oui.
Sait-on ce qui s'est passé et pourquoi le trafic de migrants est-il aussi récurrent dans le pays?
Alors, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que des corps de migrants sont retrouvés dans des fosses communes. On se souvient, il y a plus d'un an maintenant, cette fosse commune qui contenait au moins 65 corps de migrants découverts dans le sud de la Libye. Bonjour Willy Diallo.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. Plusieurs personnes ont été arrêtées après cette macabre découverte de dimanche. On va y revenir dans un instant. D'abord, que s'est-il passé?
Eh bien, les corps ont été retrouvés dans la région de Kofra, dans le sud-ouest du pays, après une opération des forces de sécurité dans le centre de détention illégale où 76 migrants d'origine subsaharienne étaient séquestrés. Selon le bureau du procureur, ce centre était tenu par une bande qui les torturait et les soumettait à des traitements cruels, dégradants et inhumains. Des photos publiées dans le week-end sur les réseaux sociaux ont montré des individus couverts de cicatrices sur le visage et le reste du corps. 3 hommes, un Libyen et 2 étrangers, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de migrants.
Ouais, la question de défunt est très pertinente. Pourquoi le trafic de migrants est-il aussi récurrent en Libye?
Parce que du point de vue des trafiquants, les migrants sont une source d'argent. En les torturant, ceux qu'ils capturent dans le désert, ils peuvent faire pression sur les familles et leur extorquer de l'argent contre leur vie. Pour le spécialiste de la Libye, Jalel Archaoui, afin de maintenir ce système d'intimidation, les trafiquants font régulièrement des morts pour l'exemple. Après avoir torturé les migrants, ils vont jusqu'à tuer ceux qui ne rapportent pas suffisamment. La terreur qui règne aussi bien dans le centre que dans les familles leur permet alors d'engranger plus d'argent.
Un système financier qui suscite d'ailleurs des tensions au sein du camp Haftar. Haftar qui contrôle l'est de la Libye.
Eh bien oui, puisque toujours selon le chercheur, on assiste parfois à des affrontements entre les trafiquants illégaux donc et les centres officiels gérés par le clan de Khalifa Haftar. Des centres illégaux sont perçus par les brigades arabes de Haftar comme un espèce de vol de part de marché, d'où les conflits entre les brigades officielles et les passeurs. Dans ce contexte, les trafiquants sont absorbés par les affrontements et les personnes détenues finissent souvent par mourir de faim, oubliées par les camps.
Ouais, la fosse commune dont on parle a été découverte justement dans cette région, région qui est frontalière avec le Soudan, pays qui est en guerre. Depuis 2 ans, Wely Diallo, le nombre de réfugiés a explosé.
Eh bien, c'est l'une des conséquences de la guerre au Soudan. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies estime qu'il y a entre 400 et 500 ressortissants soudanais qui franchissent la frontière de la Libye tous les jours. S'il est difficile d'estimer leur nombre exact, l'ONU considère que plus de 3 millions de personnes ont fui le pays dans une grande partie vers la Libye. D'ailleurs, il s'agit bien de réfugiés de guerre. La précision est importante. Ces personnes fuient la guerre au Soudan et cherchent à se réfugier à la frontière sans forcément vouloir traverser la Méditerranée. C'est dans ce contexte donc qu'ils se retrouvent emprisonnés dans ces centres de détention, parmi lesquels certains sont gérés par des trafiquants qui vont torturer les migrants pour extorquer de l'argent à leur famille.
Ouais, la Libye, qui, rappelons-le, est devenue l'une des principales plaques tournantes du trafic d'êtres humains sur le continent africain.
Dernièrement, un nouveau rapport paru fin janvier est venu accabler le pays. Intitulé « Traite d'État, expulsion et vente de migrants de la Tunisie vers la Libye », il met en cause directement, et pour la première fois, la responsabilité de l'État tunisien dans un possible cas de vente et de trafic de migrants. Selon la trentaine de témoignages recueillis, les migrants sont arrêtés en Tunisie, puis transportés à la frontière, où ils sont vendus aux forces armées et milices libyennes pour un prix de vente qui varie entre 40 à 300 dinars, de 12 à 90 euros donc, en fonction de la rançon que les trafiquants pensent pouvoir en tirer.
Voilà Delphin pour nos explications.
Merci Juan.
Et merci
à toute l'équipe. Nous remercions depuis Abomeka, la vie.
Au Bénin. D'ailleurs, on sera très prochainement au Bénin, dans 2 semaines. Je vous en dirai plus très très vite, bien évidemment. Et si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez la primeur des informations et des différentes émissions que nous enregistrerons à Cotonou. Wely Diallo, merci infiniment.
Merci à vous.
Journaliste au service Afrique de RFI. Restez avec nous dans 10 minutes. Nous parlerons du sort de Mohamed Bazoum. Mais d'abord, la